L'actualité francophone, la Cour européenne de justice donne raison à la Belgique qui refuse des visas humanitaires aux demandeurs d'asile. Au Canada, une affaire d'évasion fiscale de riches contribuables révélée par la presse. En Afrique, le Cameroun confronté aux revendications de ses citoyens anglophones. La présidentielle en France, malgré ses ennuis avec la justice, François Fillon retourne la situation et repart en campagne. En Suisse, polémique autour de la visite prévue dimanche du ministre turc des Affaires étrangères. D'abord, les personnalités de la semaine en Belgique. Nathalie De Vic, hommage au plus célèbre des chanteurs du plat pays.
Jacques Brel, qui aura bientôt sa statue en plein cœur de Bruxelles, tout près de la Grand Place, là où Bruxelles bruxelait, comme le chantait notre grand Jacques, à la vieille Halle au Blé, non loin du célèbre Mannequin Piss, bien connu des touristes. La statue en bronze représentera Brel sur scène, micro à la main, bras ouverts, très expressif comme à son habitude. Une façon de lui rendre hommage, puisqu'elle sera dévoilée cet automne pour le 40e anniversaire de sa mort. Une façon aussi d'attirer à nouveau, espère la ville, davantage de visiteurs dans le centre, qui ne devraient pas rester de marbre.
La personnalité de la semaine en Afrique, Laurent Kourou, c'est le maire de Dakar.
Oui, il s'appelle Khalifa Sall, c'est l'un des frondeurs du Parti socialiste sénégalais, l'un de ceux qui pourrait faire de l'ombre au président Macky Sall lors de la prochaine élection présidentielle. En 2019, il a été inculpé et placé en détention pour détournement de fonds publics, association de malfaiteurs et blanchiment de capitaux. Les alliés politiques de Khalifa Sall accusent le pouvoir sénégalais de chercher à éliminer politiquement un concurrent trop gênant.
En France, l'homme de la semaine, Thierry Dana, ambassadeur de France au Japon. Il a signé mercredi une tribune dans la presse. Il prévient qu'il refusera de servir Marine Le Pen si elle est élue à la présidence de la République. Thierry Dana ne mâche pas ses mots en s'adressant à elle. La France est conquérante et vous voulez en faire un pré carré. La France est généreuse et vous voulez en faire une boutique repliée sur elle-même. La France est créative et votre vision sent le rance. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, a rappelé le devoir de réserve des diplomates. Cela n'a servi à rien. Jeudi, c'est notre ambassadeur aux États-Unis, Gérard Haro, qui a déclaré au Washington Post que l'élection de Marine Le Pen serait, je cite, « une catastrophe totale ». Au Canada, Dominique Brassard, un athlète de 28 ans, c'est l'homme de la semaine, Alex Harvey, il est le nouveau champion du monde de ski de fond.
C'est la première fois dans l'histoire des mondiaux qu'un Nord-Américain remporte une médaille aux 50 km style libre. Alex Harvey a réussi cet exploit dimanche en Finlande. Il a terminé la course avec une avance de 6 dixièmes de seconde sur son adversaire russe. Alex Harvey rêve maintenant de remporter une médaille olympique.
En Suisse, Virginie Mater, la personnalité de la semaine, c'est le Valaisan Oscar Freisinger.
Oui, c'est l'un des politiciens les plus célèbres du pays, immédiatement reconnaissable à son catogan et son franc-parler. Oscar Freisinger est un pilier de l'UDC, le parti de droite conservatrice, première force politique du pays. Dimanche passé, il a reçu une véritable gifle électorale dans son canton, le Valais, où il y a 4 ans, il avait pourtant été brillamment élu à l'exécutif après une longue carrière sous la coupole fédérale. Et on peut même parler en fait d'un plébiscite historique, puisque jamais un UDC n'avait percé de telle manière dans un gouvernement canton. Mais un mandat plus tard, la personnalité et les méthodes d'Oscar Freisinger semblent avoir déçu une partie de ses électeurs. Il est arrivé 6e du premier tour pour 5 places seulement. Pour autant, celui qui se décrit comme le chantre du combat planétaire contre le néolibéralisme conserve malgré tout de bonnes chances d'être réélu au deuxième tour.
En Belgique, Nathalie De Vic, le gouvernement a obtenu gain de cause auprès de la Cour européenne de justice sur une question de visa humanitaire.
Une affaire qui divise depuis des mois. À l'origine, la demande de visa humanitaire d'une famille syrienne introduite à l'ambassade belge du Liban, refusée par le secrétaire d'État à l'asile et la migration, car accepter reviendrait à ouvrir en grand les portes aux demandes d'asile des candidats réfugiés, soutient Théo Franken, qui en fait une question de principe. Mais pour les avocats de la famille, refuser, eh bien, c'est l'exposer à des traitements inhumains. Un bras de fer juridique qui a poussé le Conseil du contentieux des étrangers à saisir la Cour européenne. Et sa réponse est claire, non, il n'y a pas d'obligation internationale au regard de la Charte des droits fondamentaux. Le choix donc de délivrer ou pas un visa humanitaire doit être laissé à l'appréciation de chaque État. C'est un arrêt qui fera jurisprudence dans toute l'Europe au soulagement de Théo Franken.
Toutes les choses juridiques sont liées. Ça veut dire maintenant la Cour de justice du niveau européen a dit que c'est non. Alors c'est clair que tous les autres doivent suivre, ça c'est clair. Je suis... optimiste pour le futur.
Un optimisme que sont évidemment loin de partager les organisations de soutien aux réfugiés, Ligue des droits de l'homme en tête, son président Alexis de Soif.
Monsieur Franken crie victoire. Je trouve ça assez cynique de crier victoire quand on parle de pouvoir refuser un visa humanitaire. Mais la question qui se pose, c'est que faisons-nous, Belgique, et que fait l'Europe pour accorder à des personnes qui en ont besoin la protection qu'ils peuvent réclamer sur base du droit international? C'est là la question qui reste entière.
Et c'est précisément ce que regrette l'ensemble des associations de défense des droits de l'homme, qu'aucune alternative ne soit proposée entre fermeture des frontières terrestres et recours devenu du coup presque obligé aux passeurs, qu'on ne fait ainsi qu'encourager. C'est le droit d'asile lui-même qui est remis en cause, dénonce-t-elle. La Cour de justice de l'Union européenne condamne des milliers de migrants à la noyade, une occasion manquée pour l'Europe de réaffirmer ses valeurs basées sur les droits fondamentaux, concluent les acteurs humanitaires.
L'actualité en Afrique, Laurent Corot, coup de projecteur sur la crise qui secoue depuis 4 mois les 2 régions anglophones du Cameroun.
Oui, une crise qui plonge ses racines dans l'histoire du pays puisque le Cameroun est né de l'union entre un territoire majoritairement francophone et des régions contrôlées par les Anglais après la Première Guerre mondiale. Le pays possède d'ailleurs actuellement 2 langues officielles, l'anglais parlé dans 2 régions et le français qui domine dans les 8 autres provinces du Cameroun.
Le problème, Laurent Corot, c'est que cette minorité anglophone se sent marginalisée. La région, du coup, est secouée de soubresauts réguliers.
Oui, et la dernière vague de contestation a commencé il y a 4 mois. Les responsables de la communauté anglophone organisent des journées villes mortes, des manifestations. Ils demandent une meilleure redistribution des richesses. Ils protestent également contre les différences dans la justice et l'éducation. Une minorité de Camerounais anglophones réclame le fédéralisme ou l'indépendance. Mais pour la plupart, il s'agit surtout d'obtenir un rééquilibrage entre régions, comme le demande cette femme.
Tout le monde aime le Cameroun. Nous aimons notre pays. Tout le monde doit pouvoir y avoir sa place.
Pour tenter de calmer le mouvement, les autorités ont en tout cas fait couper depuis la fin du mois de janvier Internet dans la région concernée. Cette coupure contribue à aggraver les difficultés économiques de la zone anglophone, notamment pour les start-up de ce qu'on appelle la Silicon Mountain autour de la localité de Boya.
En France, l'obstination de François Fillon a fini par payer. Une manifestation au Trocadéro à Paris dimanche dernier devant des milliers de partisans. Une intervention musclée le soir à la télévision pour dire « Non, je ne renoncerai pas. Personne n'est plus légitime que moi parce que j'ai gagné la primaire. » Le lendemain, Alain Juppé, envisagé comme plan B, annonce plein d'amertume « Je ne serai jamais le recours. » Et lundi soir, victoire à l'usure de François Fillon. Le comité politique de son parti le soutient à l'unanimité. Et voilà, François Fillon reparti en campagne, comme si de rien n'était. Mais pour lui, le plus dur reste à faire, redevenir audible, crédible, même si la justice le met en examen dans quelques jours dans l'affaire des emplois présumés fictifs de son épouse. Benoît Hamon, le candidat du Parti Socialiste, a aussi du souci à se faire. Sa campagne à gauche toute patine. Plusieurs poids lourds du gouvernement veulent soutenir Emmanuel Macron, ex-ministre de l'économie de François Hollande. Tous les sondages le donnent présent au second tour face à Marine Le Pen. C'est aussi l'opinion d'un socialiste dont la voix compte ici en France, l'ancien maire de Paris, Bertrand Delanoë.
L'avantage du programme d'Emmanuel Macron, c'est qu'il est sérieux et crédible sur le plan économique et donc il rend possible des progrès sociaux et il y en a plusieurs, que ce soit sur la protection des chômeurs, sur la lutte contre le chômage, sur les minima sociaux, sur la protection des plus faibles. Il y a beaucoup de mesures qui sont peut-être pas aussi à gauche que je le voudrais dans le programme d'Emmanuel Macron, sauf que lui, il a les moyens, il se donne les moyens de les réaliser.
La Suisse, Virginie Mater, et l'annonce de la venue du ministre turc des Affaires étrangères qui met les autorités en émoi.
Mevlet Çavuşoğlu devait faire étape ce dimanche à Zurich pour rencontrer officiellement les consuls en poste en Suisse et en Autriche dans un hôtel proche de l'aéroport. Et cela, bien sûr, dans le cadre de la campagne pour le référendum du 16 avril qui vise à renforcer les pouvoirs du président Erdogan.
Mais Virginie, mercredi dernier, le canton de Zurich a décidé d'interdire cette visite.
Les autorités locales invoquent en effet des raisons de sécurité. Au vu de ce qui s'est passé en Allemagne, le canton estime ne pas pouvoir garantir que l'événement se produise sans heurts, même en mettant en place un dispositif de police important, à moins bien sûr que la Confédération propose ses propres moyens sécuritaires. La réponse de Berne ne s'est pas fait attendre. Le lendemain, la Suisse s'est formellement opposée à cette interdiction. La visite du chef de la diplomatie turque ne représente pas un danger pour le pays. L'empêcher est contraire à la liberté d'expression. Un débat dont s'est emparé la classe politique suisse. Carlos Maruga, conseiller national socialiste genevois, partage les réticences zurichoises.
Je pense qu'il faut distinguer la liberté d'expression et l'importation en Suisse d'un combat politique d'un pays tiers. Il n'y a aucun problème que ce ministre et que le président viennent et qu'il ait une réunion dans l'ambassade turque à Berne avec des invités, mais qu'ils ne viennent pas en fait dans le domaine public, parce que faire un grand meeting même dans un hôtel, c'est une manifestation publique et c'est susceptible de créer des tensions. On n'a pas à importer en Suisse les tensions qui sont celles de l'extérieur. Il y a quelque chose qui ne joue pas.
Entre-temps, l'hôtel zurichois a fait savoir qu'il renonçait à accueillir ce meeting dimanche.
Au Canada, Dominique Brassard, une affaire d'évasion fiscale provoque les passions. On connaît maintenant les noms de riches Canadiens qui ont réussi à frauder l'impôt grâce au service de la firme comptable KPMG.
Et ces riches Canadiens pourraient, tout comme KPMG, être éventuellement accusés aux criminels. Mais à Ottawa, l'opposition n'y croit pas. Le député Alexandre Boulris s'accuse la ministre du Revenu, Diane Leboutillier, de laxisme. Les voici tous les deux.
Les gens qui vont travailler tous les matins payent leurs impôts, ils n'ont pas le choix. Mais s'ils remettent leur rapport en retard, pow, on va retomber sur la tête dès le lendemain qu'il faut payer des intérêts. C'est drôle, quand vous êtes millionnaire, c'est pas les mêmes règles.
C'est sûr que l'agence, ça va aller jusqu'au bout dans les procédures judiciaires. Puis je veux rassurer la population, moi je vise les gros poissons. Puis je peux vous dire que je vais les avoir.
Et Dominique, les agissements des juges de la Cour canadienne de l'impôt soulèvent aussi des questions.
Parce que trois juges ont assisté à une conférence sur la fiscalité commanditée par KPMG et à des soirées organisées par des cabinets d'avocats proches de la firme comptable. Le directeur général du Conseil canadien de la magistrature, Normand Sabourin, lance une enquête.
Dans les trois cas, il y aura un examen du Conseil sur les allégations ou la possibilité d'inconduite de la part de ces juges. Et c'est bien important qu'on comprenne qu'il ne s'agit que d'allégations et il importe au Conseil de mettre la lumière sur ces faits-là.
Mais une question demeure, quelle influence le puissant cabinet comptable exerce-t-il au gouvernement fédéral? Depuis 2006, KPMG a reçu près de 100 millions de dollars en contrats du gouvernement.
C'était l'actualité francophone. À la semaine prochaine.